Rennes, j'écoute les voix du service public. C'est le podcast des archives de Rennes dans lequel nous vous proposons de découvrir des témoignages de celles et ceux qui ont fait la ville.
Dans un contexte où il y a beaucoup de gens en difficulté, si on va prendre sur les logements sociaux pour répondre, uniquement sur les logements sociaux pour répondre, ça veut dire que pour le droit commun, il ne restera pas grand-chose. Et d'autre part, certaines personnes ne peuvent pas accéder au logement social légalement, parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour, parce qu'ils n'ont pas leur avis d'imposition, parce qu'ils sont en situation de séparation et que ce n'est pas réglé, etc. Donc légalement, ils ne peuvent pas y accéder. Donc de toute façon, il faut trouver une autre solution si on veut leur trouver un toit. La ville et le district ont mis en place, en lien avec le milieu associatif local, des réponses diverses.
Dans cet épisode, nous vous proposons d'écouter Françoise Cottereau, qui, après avoir travaillé à l'urbanisme et à la mission Centre Ancien, est devenue actrice d'un modèle du logement social à Rennes, ville et métropole, en dirigeant le service concerné de 1998 à 2014. Son parcours a été marqué par l'engagement de la municipalité, qui a créé une nouvelle relation avec les bailleurs sociaux et avec le public. Native de la Mayenne, Françoise Cottereau a passé une maîtrise d'histoire, puis a postulé à Rennes après le concours de rédacteur de collectivité locale. Et c'est dans le service d'urbanisme qu'elle a débuté sa carrière, un service créé après la victoire d'Edmond Hervé en 1977 à la tête de la ville de Rennes, service qui était ouvert à différents profils, une autre nouveauté de l'époque.
Le service d'urbanisme était un service tout neuf. Auparavant, il n'existait qu'un service qui s'appelait... Il y avait un grand service voirie qui s'occupait de tout ce qui était autour de l'acte de construire et de faire de la route et qui était dirigé par des ingénieurs. Et un des actes d'Edmond Hervé, ça a été de créer un service d'urbanisme qui s'intégrait dans un service d'aménagement. Et ce service d'urbanisme, il était dirigé par quelqu'un qui n'était pas ingénieur, qui était Claude Herrel, géomètre de formation. Et ce dont je me rappelle très bien, c'est comment ce service d'urbanisme était... presque méprisé par les services et notamment les responsables ingénieurs des services techniques. Pour eux, c'était les intellectuels, quoi, les intellectuels un peu fumeux. Et il y avait même un sociologue dans notre équipe. Ça, je pense que c'était quelque chose qui, à l'époque, était assez incompréhensible vu du point de vue des ingénieurs. Pour moi, c'était évident que ces techniciens, ces ingénieurs, j'avais une vision assez manichéenne, c'était le reste d'une vieille époque, et que leur vision était une vision uniquement technique, et que tous les débats qui avaient lieu à ce moment-là sur l'aménagement de la ville, la place de la voiture, l'excès des voitures en ville, etc., tout ça, ils ne comprenaient pas, c'était... Leur formation, toute leur histoire leur interdisait de se poser les vraies questions à ce niveau-là. Et donc, j'étais dans un service passionnant parce que il y avait des jeunes architectes, il y avait des sociologues, il y avait des gens qui se posaient les vraies questions. En tant que rédactrice, je participais notamment sur tout ce qui était, par exemple, l'histoire de la pénétrante Nord, qui aujourd'hui est une espèce de grande coulée verte.
La coulée verte est un espace vert situé entre la Rocade et les Prairies Saint-Martin dans les quartiers nord de Rennes. Un projet de voie rapide, pensé pour relier directement la Rocade au centre-ville, y est imaginé par la municipalité. Projet qui se heurta à l'opposition des habitants du quartier. Voici des extraits du rapport à la municipalité du 16 septembre 1981. La pénétrante nord ainsi que l'avenue des Gailleuls ont été prévues pour faciliter les liaisons entre le centre et les secteurs nord et est de l'agglomération. Les déplacements entre zones étant en fonction du nombre d'habitants, il est certain que les échanges entre l'est de l'agglomération et le centre-ville seront moins importants qu'ils n'étaient prévus en 1974 à l'horizon du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Par contre, la diminution du nombre d'habitants des communes de Béton, Saint-Grégoire, Montgermont et la Chapelle des Fougerets est faible. Il est donc logique d'imaginer que le déplacement entre ces communes et le centre de Rennes sera important. La priorité au transport en commun a été définie par le conseil municipal de Rennes. Cette priorité au transport en commun n'est possible dans les années suivantes dans le secteur nord que si les rues de Fougères et d'Entrain ne sont pas trop chargées, car lors de la révision du plan d'occupation des sols, il a été décidé de ne pas toucher aux bâtiments longeant ces voies. Actuellement, ces voies sont déjà chargées, ce qui justifie les mesures prises en faveur des transports en commun. Toute augmentation future de la circulation se fera au détriment des transports en commun. Il convient donc de créer une voie suffisamment attractive pour détourner des rues d'Entrain et de Fougères une partie du trafic. L'objet de la pénétrante nord sera donc de desservir le centre sans favoriser les traversées nord-sud de la ville.
Donc c'était le moment où on a commencé à réfléchir à est-ce qu'on va la faire cette pénétrante ? Est-ce que c'est nécessaire de la faire ? Est-ce qu'il faut faire rentrer les flots de voitures dans la ville ? À quoi ça sert ? Puisque de toute façon, au niveau de la ville, après, il y a un goulot d'étranglement, réflexion sur la piétonnisation du centre ancien, enfin bon, voilà. Et ces débats, ils étaient quand même assez vifs. Et pour moi, très intéressant.
Une autre nouveauté de ce début des années 1980 à Rennes a été le découpage de la ville en quartiers et donc en services. Françoise Cottereau a ainsi travaillé au sein du service quartier ancien.
Alors le service quartier ancien, il s'occupait en fait du centre-ville. Et dans ce quartier 1, il y avait les opérations de ravalement de façade, qui était quelque chose qui avait été initié par la municipalité d'Edmond-Hervé aussi. Et donc moi, une de mes tâches, c'était de mettre en œuvre ces campagnes de ravalement de façade. Donc ça a passé par aller chercher au cadastre et aux hypothèques les noms des propriétaires, puisque la grande difficulté à Rennes, c'est que les immeubles sont en copropriété. Et en fait, ces immeubles rennais, souvent, ils n'avaient pas eu de travaux quasiment depuis l'origine, c'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle. Et personne, même à part certains syndics et encore, ne savait vraiment qui était propriétaire de quoi partout. Donc il y a eu un gros travail de recherche des propriétaires et d'incitation à la constitution de copropriétés, parce que quelquefois même ces copropriétés n'étaient même pas constituées. On a aussi, la ville préemptait des logements, des immeubles anciens pour faire du logement social. Donc ça a été la période où on a fait du logement HLM dans des rues comme la rue Vasselot, la rue de Saint-Malo. Je travaillais beaucoup avec, à ce moment-là, l'office municipal, qui est devenu Archipel Habitat, parce que ça a été, en fait, notre principal interlocuteur sur ces opérations-là. On avait une cellule spécifique, et je m'occupais aussi des montages financiers de ces opérations.
Et en 1985, une fois la campagne de ravalement lancée, il n'y avait plus de nécessité d'avoir une cellule décentralisée sur le centre-ville. Avant de revenir dans le service d'urbanisme, Françoise Cottereau s'est absentée durant une année pour préparer le concours de l'ENA, l'École nationale d'administration, en tant que fonctionnaire, cela après avoir passé un concours lui donnant accès à cette année préparatoire.
Il y avait un sujet qui s'appelle « Faut-il détruire les grands ensembles ?» Et moi, j'étais déjà intéressée par la politique de la ville à l'époque et j'avais été faire un stage à l'École des Ponts. J'ai donc pris ce sujet et je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir ce concours. Et donc pendant un an, j'ai suivi les cours à la fac de droit et j'ai pas eu l'ENA, mais j'ai eu le concours d'attaché.
Rennes, j'écoute les voix du service public. Une fois passé le concours d'attaché, Françoise Cottereau est revenue dans le service d'urbanisme de la ville. Elle s'y est occupée de la zone d'aménagement concertée sur le quartier Lorient-Saint-Brieuc, du montage des dossiers pour l'obtention de subventions de l'État comme pour le développement social des quartiers Maurepas et Le Blône. De 1989 à 1998, elle a quitté la ville de Rennes pour Saint-Jacques-de-la-Lande, où le maire, Daniel Delaveau, renforçait son service d'urbanisme en vue de l'aménagement du quartier de la Morinée, année où elle s'est formée à l'urbanisme. Puis après avoir passé l'examen d'attaché principal, Françoise Cottereau est revenue à Rennes pour y être la responsable de l'habitat social. Le service gérait la construction et l'attribution des logements sociaux. Si les municipalités d'Edmond-Hervé se sont inscrites dans la continuité de celle d'Henri Fréville pour ce qui est du logement social, elles ont fait face au désengagement croissant de l'État dans les années 90 en mobilisant davantage d'argent et en ayant ainsi davantage de pouvoir face aux organismes HLM. Et vis-à-vis du public, la ville de Rennes a aussi innové pour présenter et expliquer le suivi des dossiers.
L'État ne donnait aucune information aux gens sur la façon dont étaient traitées leurs demandes de logement HLM. Donc, la ville, en tant que... elle s'était mise en chef de file de cette politique d'attribution, qu'elle enregistrait la demande. D'ailleurs, elle enregistrait la demande en délibérant. C'est-à-dire, naturellement, la ville n'était pas... Même aujourd'hui, les communes ne sont pas lieu naturel d'enregistrement. Il faut qu'elles se déclarent lieu d'enregistrement par une délibération. Et donc, à partir de ça, la ville avait fait un petit livret, voilà. Et aujourd'hui, c'est Rennes Métropole qui a fait ce livret aussi où on explique en fait la démarche d'une demande et les règles. Parce qu'en fait, ce qui est la caractéristique de notre système, ce qu'il y a par derrière, c'est l'idée de transparence, c'est-à-dire l'idée de que les gens ne se fassent pas des idées sur comment on attribue les logements. Qu'on puisse leur dire à tout moment, ben voilà, parce que beaucoup, évidemment, beaucoup de gens viennent se plaindre parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas assez vite leur logement. Et on leur dit, ben oui, vous êtes inscrit, vous avez des points, mais aujourd'hui, il y a tant de demandeurs, et puis vous, votre classement aujourd'hui ne vous permet pas d'avoir un logement tout de suite. Parce que ben, y en a d'autres avant vous, et voilà. Vous avez des points parce que vous êtes au chômage, parce que vous êtes, voilà, ou vous n'en avez pas parce que vous avez juste des points d'ancienneté, parce que vous travaillez, vous avez des revenus confortables, etc. Voilà. Donc vous aurez un logement à votre tour. C'est bien l'idée que les gens ils comprennent et qu'ils se fassent pas l'idée que l'attribution des logements sociaux, ça se fait dans le cabinet du maire. Mais je pense que ouais, ça a fait son chemin. Faut dire qu'on a beaucoup écrit. Chaque fois que les gens envoient une lettre pour se plaindre, on a répondu à chaque fois en réexpliquant les règles. Enfin, moi, j'ai fait un nombre de courriers incalculable. Hein. C'est signé par l'élu, enfin, etc., pour expliquer comment ça fonctionnait. Mais je pense que c'est payant, même par rapport aux travailleurs sociaux. Enfin, parce qu'il faut convaincre tout le monde que finalement, il y a une règle et qu'elle est respectée. Et qu'y compris les élus, il n'y a pas de passe-droit, enfin, etc.
Cette politique du logement et du logement social à Rennes, avec le volontarisme de la ville, puis de la métropole, Françoise Cottereau a participé à créer un modèle rennais, unique, visant à faire dialoguer en toute transparence les travailleurs sociaux avec les organismes HLM pour l'attribution des logements sociaux. Voici un extrait du contrat d'objectif du service Habitat Social de la ville de Rennes d'octobre 2003. Une des caractéristiques et spécificités de la ville de Rennes est qu'il est demandé au service Habitat Social de proposer aux bailleurs sociaux les dossiers en fonction des critères d'attribution établis. Dans beaucoup d'autres villes, les mairies peuvent accueillir les demandeurs, mais ce sont les bailleurs sociaux qui étudient les dossiers et les retiennent en fonction de critères plus ou moins définis. Beaucoup des partenaires, dont les bailleurs sociaux et les élus entendus, se félicitent de ce choix et insistent sur l'équité du fonctionnement actuel. Il y a une véritable clarté politique. C'est transparent. Les critères d'attribution sont objectifs et équitables. Une part des demandeurs se tourne vers les élus afin d'accélérer le traitement de leurs dossiers, en premier lieu le maire et les élus de permanence. Sur une année, 600 courriers environ adressés aux maires concernent les demandes de logements sociaux, soit 30% des courriers reçus. Ils demandent une aide, une réponse à une demande de logement social. Ils bénéficient alors de conseils pour poursuivre leur démarche et la procédure leur est expliquée. Les élus, lors de leur permanence à l'hôtel de ville et dans les quartiers, reçoivent également des personnes pour des questions de logement, ce qui est d'ailleurs un des motifs les plus fréquents de venue. Ils transmettent les demandes par un système de fiches à l'élu au logement, avec copie au service Habitat Social. Ils s'interdisent l'octroi de tout passe-droit. La responsable du service et les agents reconnaissent également le bon fonctionnement du système et l'absence de pression des élus ou partenaires à l'encontre du service. Un partenaire signale cependant que cette clarté et transparence des critères d'attribution n'est pas forcément bien connue et comprise par une partie des demandeurs. Françoise Cottereau nous explique la clé du succès de ce modèle rennais.
Donc il y a eu cette idée que plutôt que les gens fassent le tour des organismes HLM, ils aient un interlocuteur à la ville. Guichet unique, ça veut dire qu'on va à un seul endroit constituer son dossier. Et après, ce qui a été encore plus révolutionnaire, j'allais dire, c'est la commission unique d'attribution et le classement des demandes. Donc l'idée, c'était de dire créer cette commission d'attribution où étaient réunis tous les interlocuteurs sur le logement à Rennes. Cette commission a été mise en place en 1963. C'est là qu'intervient le système de classement, parce que donc l'autre idée, c'était de dire, quand on a beaucoup moins de logements que de demandes, comment on attribue ? Il faut qu'on ait un système de classement, et ça ne peut pas être uniquement l'ancienneté d'inscription. Parce que on voit bien qu'il y a des gens qui ont plus de besoins que d'autres, des gens qui sont plus en difficulté que d'autres. Donc il faut qu'on trouve un système pour prioriser. Et donc là a été mis en place ce système de classement avec un système de ce qu'on appelle scoring aujourd'hui. Et cette commission a discuté des critères. Il faut une conjonction peut-être de choses importantes. La durée, la pérennité, c'est quelque chose d'important. Parce que moi, je vois, j'ai reçu des villes où il y a eu des alternances politiques, où les uns avaient complètement remis en cause ce que les autres avaient fait. Enfin bon, c'est terrible, ça. Donc il faut tout refaire à chaque fois. Enfin bon, parce qu'on voit bien que ça se construit dans la durée, ce partenariat. Et notamment, une des choses qu'on a réussi et qui est, je pense, difficile, c'est à faire travailler Par exemple, les organismes HLM avec les travailleurs sociaux. Et c'est vrai que dans beaucoup d'endroits, ils sont comme chien et chat parce que les organismes HLM voient les travailleurs sociaux comme des gens qui prennent fait et partie toujours pour les locataires qui posent des problèmes. Et les travailleurs sociaux voient les organismes HLM comme des affreux bailleurs, grippe-sous, etc. Voilà. Et chacun a une vision très manichéenne de l'autre. Et nous, depuis le temps qu'on travaille ensemble, chacun entend aussi la logique de l'autre et comprend les difficultés de l'autre. Et ça met du temps. Ça met du temps. Il faut que les gens travaillent ensemble. Il faut qu'ils se voient régulièrement. Il faut qu'ils aillent voir comment fonctionnent les institutions des uns et des autres. Enfin, c'est des choses qui ont besoin de temps. Et je pense qu'après, il faut qu'il y ait des volontés politiques fortes. Et donc il y a eu une conjonction, je pense, de choses qui ont fait que voilà, il a pu avoir cette pérennité. Et en même temps, ça aurait pu ronronner aussi, parce que ce genre de commission, voilà, au bout d'un certain temps, ça peut ronronner. Et puis ça peut perdre de sa substance. Enfin, bon, et c'est vrai que quand j'étais responsable du service, Guy Potin, à plusieurs fois, il a aussi remué le cocotier.
Ancien responsable administratif devenu politique, Guy Potin a été élu en charge du logement pour la ville de Rennes et Rennes Métropole entre 2002 et 2014. Il a aussi été président d'Archipel Habitat.
Pour redonner de la substance à la commission. Je vous disais, à un moment donné, les organismes HLM, des fois, ils ne remettaient plus que les logements qu'ils n'arrivaient pas trop à louer. Donc, il a tapé du poing sur la table en disant, ça va pas du tout. Si vous voulez l'argent de la ville, eh ben, il faut qu'on ait tous les logements. Et puis voilà, je crois que ça s'est fait parce qu'il y avait des intérêts partagés.
Françoise Cottereau a-t-elle eu le sentiment d'avoir été une militante du logement social?
Oui, enfin, dans un sens, oui. C'est-à-dire dans le sens où c'est un domaine que j'ai à cœur et que j'ai pas fait ce travail-là de façon désincarnée. C'est vrai que ça rencontrait chez moi une conviction. Donc c'est vrai que je l'ai exercé en partie de façon militante, c'est vrai. Oui, je pense que militante dans le sens où... Oui, voilà, je l'ai fait avec des convictions qui sont que je croyais aux valeurs de transparence, d'équité, voilà, et de prioriser effectivement la demande en fonction de la situation socio-économique des gens. Je crois aux critères du partenariat. Je crois, voilà, c'est vrai que j'adhérais à des valeurs qui étaient déjà en place, mais dans lesquelles je me retrouvais complètement.
Françoise Cottereau est partie à la retraite en 2014, mais le logement social, elle ne l'a pas complètement abandonné.
J'avais dit, quand je serai en retraite, surtout, je ne reprendrai pas de responsabilité dans le domaine, etc. Voilà. Et puis, un petit peu après les élections, là, la directrice d'Archipel m'a...
Archipel Habitat est l'office public de l'habitat de Rennes Métropole.
m'a proposé de faire partie du nouveau conseil d'administration d'Archipel. Et bon, sur le coup, je me suis dit, bah non, parce que voilà. Puis après, je me suis dit, bon, c'est vrai quand même, abandonner tout du jour au lendemain, puis finalement, c'est quand même un domaine qui m'intéresse. Puis là, c'est pas le même positionnement, on est dans un positionnement de beaucoup plus de hauteur, t'auras pas les mains dans le cambouis, tu regardes. Voilà, et du coup, j'ai fini par dire oui. Donc voilà, j'ai gardé ça. Je suis au conseil d'administration d'Archipel. Non, je pense que dans le domaine de l'habitat, c'est sans doute tout ce que je garderai. Si je fais autre chose, ce sera dans un autre domaine.
Le parcours de Françoise Cottereau a été marqué par la création de services appelant de nouveaux métiers. Souvenez-vous qu'à ses débuts à Rennes, au sein de l'urbanisme, il n'était pas évident pour les ingénieurs de voir arriver d'autres profits que les leurs. Alors un parcours comme le sien lui semble-t-il encore souhaitable aujourd'hui?
Dans mon petit discours, là, et ce que j'avais dit aussi à la dernière commission administrative paritaire où j'ai participé en juin pour le collège des salariés de la CFDT, moi j'ai émis le souhait qu'on puisse continuer dans l'encadrement et dans le haut encadrement à avoir des gens qui aient des parcours différents, qui ne soient pas formatés, qui ne soient pas tous issus des mêmes écoles, parce que je crois que c'est quand même une richesse.
Le témoignage de Françoise Cottereau a été recueilli par Violaine Pouban. La musique est de Robert Meunier. C'était Rennes, j'écoute, les voix du service public, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour les archives de Rennes.